S'il y a bien un studio d'animation que j'affectionne tout particulièrement, c'est bien Pixar. Depuis ma plus tendre enfance, je consomme beaucoup de leurs films. J'avais même un Buzz l'éclair articulé du film Toy Story dans ma chambre. En grandissant, cette passion s'est amplifiée lorsque j'ai développé mon esprit critique et que j'ai appris à repérer le sous-texte des différents films. J'ai remarqué que si j'aimais énormément les longs-métrages du studio, c'était, entre autres, grâce au traitement particulier qu'ils donnent à leur scénarii, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bonsoir, je suis Céleste et aujourd'hui on va parler de Pixar et de leur traitement des histoires. Un peu d'histoire pour débuter comme d'habitude. Pixar a commencé sous le nom de Graphic Groups, une sous-branche de Lucasfilm, la fameuse boîte de production de George Lucas qui a produit tous les Star Wars. Graphic Groups s'est d'abord contenté de travailler sur des séquences de films produites par Lucasfilms. Jusqu'à ce qu'un certain Steve Jobs rachète la branche à la suite de l'échec cuisant du film Howard, une nouvelle race de héros. Cette nouvelle société indépendante était dirigée par Edwin Catmull, l'un des grands pionniers de l'animation 3D par ordinateur, et Alvira Smith, le créateur des logiciels de dessin sur ordinateur, rien que ça. De base, Pixar était une entreprise de matériel informatique, dont le produit principal était le Pixar Image Computer, utilisé surtout par des organismes gouvernementaux et par le secteur médical. L'un des principaux acheteurs de Pixar et Image Computer était Disney, qui utilisait le système afin de passer de la méthode laborieuse d'animation qui consistait à ancrer et à peindre tous les dessins à la main, à une méthode bien plus automatisée et donc plus efficace. Malheureusement, le Pixar Image Computer ne s'est jamais bien vendu, et étant donné que les mauvaises ventes des ordinateurs menaçaient de mettre la société en faillite, le département animation de John Lasseter, qui sera plus tard le réalisateur du fameux Toy Story, a commencé la production de publicités animées par ordinateur pour des entreprises extérieures. Durant cette période, Pixar a commencé à entretenir de solides relations avec Disney. Et d'ailleurs, en mai 91, il signe un contrat avec eux pour produire 3 longs métrages d'animation, dont le premier était Toy Story, réalisé donc par Pixar et produit par la firme aux grandes oreilles. Malgré cela, la société coûtait tellement cher que Steve Jobs a envisagé de la vendre. C'est seulement après la confirmation que Disney distribuera Toy Story pour les fêtes de fin d'année de 95 qu'il a décidé de lui donner une autre chance. Le film a finalement recueilli plus de 350 millions de dollars de recettes dans le monde, donc énorme succès financier et populaire. Après ce grand succès, la société Pixar a signé un accord en 97 pour coproduire avec Disney 5 longs métrages d'animation totalement en images de synthèse durant les 10 années suivantes. L'argent récolté permet à Pixar d'emménager dans des nouveaux locaux à Emeryville, désormais nommé Pixar Campus. Durant la production de Toy Story 2, Pixar et Disney commencent à avoir des points de désaccord. Toy Story 2, la suite de Toy Story donc, était d'abord destinée à une sortie directement vidéo, comme toutes les autres suites Disney. Pour eux, cette production ne faisait pas partie du contrat des 3 films signés en 91. Toutefois, le film est finalement sorti en salle et a remporté un très grand succès. Pixar a alors demandé qu'il soit inclus dans les 3 autres films prévus par le contrat. Mais Disney a refusé. Ils sont donc vus contraints de développer 3 autres films inédits, exception faite d'éventuelles suites. Pixar produit donc Monstres et Compagnie, réalisé par Pete Docter, Le Monde de Nemo d'Andrew Stanton et Les Indestructibles de Brad Bird. Début 2004, avec la fin imminente du contrat entre Disney et Pixar, les deux sociétés ont cherché à définir un nouveau contrat, Pixar le souhaitant plus équitable que le précédent. Le nouveau contrat ne portait donc que sur la distribution, Pixar désirant contrôler la production et avoir la propriété de leurs films. La société voulait également financer leurs films et recueillir la totalité des recettes. Plus important encore, dans le cadre d'un accord sur la distribution avec Disney, Pixar a exigé un contrôle sur les films déjà en production qui étaient sous les conditions de l'ancien accord, y compris Les Indestructibles et Cars. Disney a jugé ces conditions inacceptables, mais Pixar n'a pas cédé. Les désaccords entre Steve Jobs et le PDG de Disney, Michael Eisner à l'époque, ont rendu les négociations encore plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. En janvier, Jobs déclare que Pixar s'emploie activement à la recherche d'autres partenaires que Disney, et de son côté, Eisner annonce que la société Disney vient de fonder un studio d'animation en images de synthèse, Circle 7 Animation, qui a pour but de produire Toy Story 3, donc un magnifique coup de couteau dans le dos. Après une longue interruption, les négociations entre les deux entreprises ont repris après le départ d'Eisner de Disney, fin 2005. Le projet entre Jobs et Robert Iger, nouveau PDG de Disney donc, se transforme non plus en un contrat de distribution mais en acquisition de Pixar par Disney. Le 24 janvier 2006, Disney annonce le lancement d'une grande opération visant à acheter Pixar pour 7,4 milliards de dollars. En signe d'apaisement, le studio Circle 7 Animation est lui officiellement fermé le 21 mars 2006. L'acquisition a ensuite été finalisée le 5 mai 2006 et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Disney Pixar sur tous les films. Et voilà pour la partie histoire et gros sous-sous. Pour ce qui est de ce qui nous intéresse, à savoir le cinéma, Pixar, depuis ses débuts, a été un pionnier dans l'animation 3D. Toy Story est même le tout premier long-métrage entièrement en images de synthèse. Ce qui n'a plus tellement de valeur aujourd'hui, car les plus grands blockbusters sont presque entièrement en images de synthèse aujourd'hui. Toujours dans une volonté de se renouveler, Pixar a des projets qui vont au-delà de l'animation par ordinateur, avec par exemple un film en prise de vue réelle, pardon, intitulé de base 1906 et finalement rebaptisé À la poursuite de demain, réalisé par Brad Bird, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans. Et c'est ça, du coup, l'état d'esprit de Pixar, toujours chercher à innover et à explorer. C'est pour ça que, bien qu'ils aient fait des suites à leurs plus grands succès, pardon, Toy Story, Les Indestructibles ou Cars, ces films sont allés chercher plus loin que leurs prédécesseurs, ne restant pas sur des bases déjà acquises. Vous allez comprendre après. L'une des plus grandes devises de Pixar est « La technique doit toujours servir l'histoire et non l'inverse ». Évidemment, le plus important dans un film, c'est l'histoire. Lorsqu'on va au cinéma, ça semble un peu bizarre de dire ça en temps de Covid, donc on va dire lorsqu'on regarde un long métrage à la télé, on ne se dit pas « Waouh, ce film était incroyable, j'ai adoré l'utilisation de la Panasonic pour créer une atmosphère ». Non, à moins d'être quelqu'un qui aime aller vers de l'analyse technique poussée comme moi, ce qui nous intéresse, au tout premier visionnage du moins, c'est l'histoire racontée. Pixar donc a décidé de se concentrer davantage sur leurs histoires avec un traitement assez particulier. Pourquoi particulier ? Eh bien, un très grand nombre de scénaristes de la boîte ont pris le parti de raconter des histoires à toutes les générations, là où l'animation grand public était, et est encore aujourd'hui, bien plus vue comme un média pour les enfants. Le réalisateur Brad Bird, à l'origine des Indestructibles, a d'ailleurs déclaré à ce propos
« Beaucoup pensent que les cartoons de Bugs Bunny sont pour les enfants. Mais s'ils avaient fait leurs recherches, ils sauraient que ces cartoons étaient pour les adultes qui allaient voir Casablanca ou le Faucon Maltais. Ce n'était pas vraiment pour les enfants. Il y avait assez d'éléments comiques pour divertir les enfants, mais ils n'étaient pas le public cible. »
Et c'est exactement la direction qu'a pris Pixar depuis ses débuts. Faire des films qui peuvent divertir les enfants, mais qui parlent aussi, et parfois surtout aux adultes, notamment Les Indestructibles, qui a une classification PG aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il n'est pas approprié pour les jeunes enfants. Cette orientation est d'autant plus visible au niveau des thèmes abordés. Je vais prendre un exemple un peu plus parlant. Sortis respectivement en 95, 99, 2010 et 2019, les films Toy Story ont marqué les enfants nés de 90 à 2005. Le premier raconte l'histoire de Woody, cow-boy de son état, et qui voit arriver dans sa vie un ranger de l'espace nommé Buzz L'éclair. J'ai oublié de préciser que les personnages principaux sont des jouets qui s'animent lorsque les humains sont absents. Le thème de ce film est celui de l'enfance et des premiers changements de la vie. Woody est comme un enfant jaloux du nouvel arrivant qui attire toute l'attention, spécialement celle de l'enfant qui joue avec lui, Andy. Buzz représente le nouveau-né de la famille. Il ne parle pas très clairement, il est dans son propre monde. Ils expérimentent ensuite ensemble les premiers dangers de la vie, comme le fait d'être abandonné, les individus mal intentionnés qui se servent d'eux pour leur propre bonheur sans se soucier de leurs ressentis, représentés par le voisin Sid, maltraitant les jouets au point de les mutiler. Au début adversaire, Woody et Buzz vont apprendre à s'aimer mutuellement et à s'entraider pour se retrouver saufs comme de vrais frères. Le deuxième film explore l'âge adulte, l'obsolescence et le fait de grandir trop vite et d'être une vision idéalisée fausse de ce qu'on est. Dans ce film, Woody se fait kidnapper par un collectionneur voulant le revendre à un musée pour se faire un max de moula. Il apprend qu'il est le produit dérivé d'une série télévisée avec des marionnettes, nommée Western Woody. Les rôles sont ici inversés puisque c'est Buzz qui va apprendre à son ami le but d'un jouet. Celle de s'amuser avec, et non de le laisser dans une boîte pour faire joli, là où dans le premier film, Buzz se prenait pour un réel rongeur de l'espace, ne comprenant pas le sens du mot « jouet ». Pixar se permet d'ailleurs un petit tac aux collectionneurs qui laissent leurs jouets prendre la poussière sur des étagères au lieu de laisser leurs enfants jouer avec. Enfin, on a à nouveau le thème de la peur de l'abandon avec Woody qui perd son bras au tout début, et craignant de se faire délaisser par l'enfant qui joue avec lui. Cette peur de l'abandon va faire naître en lui une envie d'être une version parfaite de lui-même, mais artificielle pour que personne ne l'abandonne. Cette crainte est aussi présente chez le nouveau personnage de Cowgirl, Jessie, délaissée par sa propriétaire lorsque celle-ci a grandi, et ne souhaitant plus être obsolète aux yeux des gens, car être délaissée par les jouets, c'est comme être mort. Grosse ambiance. Le troisième volet se passe quelques années plus tard. Andy, l'enfant qui joue avec Woody et Buzz, a bien grandi et part désormais pour l'université. Les jouets, ne voulant pas être mis au rebut, trouvent un moyen de se retrouver dans une garderie remplie d'enfants, afin que l'on joue avec eux pour l'éternité. Malheureusement, une fois passé le joli arc-en-ciel du panneau, le cauchemar commence pour eux. Optant un ton un peu plus sombre que ses prédécesseurs, Toy Story 3 parle de grandir et d'avancer dans la vie. Lorsqu'Andy, à la toute fin du film, spoiler, donne ses jouets à une autre enfant dans une salle absolument puissante et magnifique, on voit tout le thème de laisser le passé derrière nous et avancer dans la vie. Il ne donne pas vraiment ses jouets, il présente, d'une façon très personnelle, des amis de longue date à quelqu'un qui saura en prendre soin, quelque chose qu'il ne pourra plus faire en allant à l'université. En faisant cela, il se détache de son enfance, mais pas avec dédain, avec poésie. Il lègue cette partie de sa vie à quelqu'un d'autre, la laissant se poursuivre au lieu de la voir mourir. Woody apprend également à se détacher de son propriétaire, lui qui avait constamment besoin d'Andy depuis le début du premier film. Il poursuit cette évolution dans le dernier film, que je ne vais pas vous divulgâcher pour vous laisser le plaisir du visionnage, mais il est tout aussi beau, poétique et bien fichu que les trois autres. Chez Pixar, on a également des scénaristes qui questionnent l'âme humaine, comme Pete Docter, réalisateur entre autres de Vice Versa et Soul. Le premier parle de cinq émotions, joie, colère, peur, tristesse et dégoût, qui vivent dans la tête de Riley, une jeune fille, à l'aube de son adolescence. Ce film part de l'importance des émotions, de ne pas se reposer que sur une seule, car quand celle-ci disparaît, on se sent un peu démuni. Oui, ça parle un peu de dépression, d'angoisse et de perte de repères. Quant à Soul, il vient de sortir, donc je vous laisse la surprise, mais il explore des thèmes comme la mort, l'héritage et la poursuite désespérée de certains rêves. Le génie de Pixar est d'arriver à aborder ces sujets dans un film qui est regardable et appréciable par tous les âges, car tous ces thèmes sont souvent dissimulés dans le sous-texte et dans les personnages. Les enfants y voient donc un film d'animation rigolo avec une belle morale, et les adultes, qui peuvent saisir davantage grâce à leur expérience, comprennent la subtilité de certains éléments et sont parfois bien plus impactés par l'histoire. Il arrive même qu'en grandissant, un Pixar devienne bien plus puissant que lors du premier visionnage. Par exemple, j'apprécie bien plus Toy Story 3 maintenant que lorsque je l'avais vu au cinéma quand j'avais 10 ans. Et c'est pour ça que j'apprécie autant Pixar. C'est grâce à cette dimension qu'ils arrivent à donner à leurs histoires. C'est plusieurs couches qui se superposent tout en donnant un film appréciable par tout le monde. Pour clôturer cette chronique, je vous laisse avec We Belong Together de Randy Newman, venant de Toy Story 3. Voyez des films, regardez du Pixar, portez-vous bien, salut!
Tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it. Whenever you need me, yeah, I met you. the light.